Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au cœur de notre rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés au 31 Place de la Madeleine à Paris. Vous écoutez Sud Radio à Clermont-Ferrand, tiens pourquoi pas sur 88.1. Et on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec l'île de beauté, les vins corses et notamment ceux de Figari, c'est une super région. Thomas Jefferson sera parmi nous, c'est le troisième président des États-Unis. On verra s'il aimait autant le vin que Donald Trump, qui veut bêtement le taxer encore plus. L'histoire de la biodynamie, on en parlera tout à l'heure, ainsi que le Vino Quiz pour gagner les jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.fm. À mes côtés, Hélène Pio et Azelina Jaboulet-Verchère. Bonjour, bonjour mesdames.
Bonjour.
Vous êtes
bonjour.
Super, il ne faut pas le dire, mais je le dis, voilà. Et puis vous êtes aussi là, David Cobol et Philippe Forbach. Vous êtes très beau, vous aussi, je vous trouve très beau.
C'est on n'est pas, voilà. Pas superbe, on est juste très beau. Bon,
c'est alors, bien. Pour commencer cette émission, Invino Sud Radio accueille Laurence Lemarchand pour nous parler de cette opération concernant les bouchons. Bonjour Laurence.
Bonjour.
Hélène.
Alors Laurence, vous êtes directrice de la qualité du développement durable chez Nicolas. En langage moderne, on dit le RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Pour le commun des mortels, c'est juste comment travailler bien pour la planète, pour l'entreprise et pour les clients, en gros, si on schématise.
C'est bien résumé.
Chez Nicolas, caviste où nous enregistrons, mais qui était là un peu avant nous, hein, l'entreprise a bientôt 200 ans.
1822.
Absolument. Vous organisez la collecte des bouchons de Liège.
C'est exact, et on le fait depuis un certain nombre d'années, puisque l'opération a commencé ses prémices en 2012, et on va dire qu'on a commencé à avoir un rythme un peu plus soutenu à partir de 2013.
Et alors, racontez-nous, vous en faites quoi de tous ces bouchons ?
Alors, tous ces bouchons de Liège sont d'abord ramenés par les clients. C'est une chose qu'il faut souligner, sans eux, ça ne fonctionne
donc
pas.
Donc, ils les ramènent aux boutiques ?
Ils les ramènent aux boutiques. D'accord. Ça représente toute une urne dédiée à cet effet.
Les 551 boutiques ?
Les 551 boutiques.
En France, à l'étranger, donc partout.
Alors, dès qu'on voit un Nicolas. Malheureusement, pour l'instant, pas à l'étranger.
D'accord. Là, mais en France, dès qu'on voit un Nicolas, on peut apporter des bouchons de Liège.
C'est exactement ce que les clients font déjà.
D'accord. Ça représente combien de bouchons de Liège alors ?
Ça représente combien de bouchons de Liège ? Depuis qu'on a démarré l'opération, on en est à 200 millions de bouchons.
200 millions wow. De bouchons récupérés ?
20 millions, pardonnez-moi.
Oui, c'est ça. J'allais me permettre de vous.
Enfin, même 20 millions,
20 millions, c'est déjà énorme, c'est 85 tonnes.
Oui.
Voilà, mais c'est surtout
sachant
ce qu'on en fait
voit
après.
Quoi, 3,5 milliards de bouteilles par an en France, le pourcentage est réel, quoi.
On sait même vous dire qu'on en récupère plus que nous n'en vendons.
Ouais. Ce qui veut dire qu'il y a des filous qui vous rapportent des bouchons.
Exactement.
De bouteilles qu'ils ont achetées ailleurs.
Et pour autant, les cavistes les accueillent avec le sourire et énormément d'affection.
Ça, c'est bien. Ça, c'est
vraiment
gentil.
Qualité de service, gentil, ça, c'est Dixit, Edmond Grand, directeur général.
On a un bisou du caviste quand on apporte. Qu'est-ce qu'on gagne ?
Ah bah écoutez, je ne suis pas caviste moi-même, donc je pense qu'ils ont chacun leur méthode.
Voilà. Mais je vous conseille d'essayer, David, et de venir nous raconter si vous avez eu un bisou.
D'accord. Je vais faire le visiteur mystère.
Ça nous intéresse. Absolument. Donc, ces bouchons, vous ne les gardez pas juste pour le plaisir ?
Alors, effectivement, ces bouchons restent en magasin le temps de représenter un certain volume. Et une fois que ce volume est constitué, ils reviennent à l'entrepôt, à Thiers. Dans le Val-de-Marne.
En région parisienne, donc ?
Absolument. Quand ils sont à Thiers, ils repartent via une logistique dédiée au Portugal. Alors, certains trouveront que c'est un peu loin, mais malheureusement, il n'y a que le Portugal qui organise un système de prise en charge du Liège pour en faire autre chose, puisqu'évidemment, ces bouchons ne resserviront jamais à être des bouchons à nouveau.
D'accord. Donc, ils serviront à quoi, d'ailleurs ?
Une autre fonction. Cette autre fonction, c'est essentiellement dans les bâtiments et travaux publics. Mmh. Ça sert d'isolant phonique, d'isolant thermique. Ça peut servir éventuellement à un artisanat qu'on connaît bien quand on a la chance d'être allé un peu au Portugal,
oui.
Parce qu'ils savent en faire énormément de choses, et notamment de la bagagerie ou éventuellement de l'artisanat de toutes sortes.
De la mode,
Nike,
des chaussures.
Nike en a fait de très jolies chaussures, mmh. Effectivement. Voilà, toutes sortes d'utilisations possibles. Ça sert également au monde de l'aviation. Ça sert essentiellement comme isolant dans différentes fonctions.
Très bien, Hélène.
À éviter les vibrations des chaussées, j'ai découvert ça. Quand vous marchez sur
absolument.
Le bitume, et ben en dessous, il y a du liège, dites donc.
Eh oui.
Ça peut aussi
vous devez
servir.
Mettre ça sur vos chaussures, Hélène, non ?
Eh bien, écoutez, j'y songerai.
Quand vous voyez un chef colombien, vous allez pouvoir sauter plus haut.
Je pense surtout qu'il faut augmenter la consommation de vin et de liège à l'échelle mondiale pour qu'on puisse effectivement avoir de jolies routes.
Alors, on est d'autant plus content que le liège qui posait un problème dans la qualité du vin, comme tout le monde le sait, est en voie d'amélioration très nette, puisque certains ont même pris des paris fous, peut-être, on verra ça, qu'en 2020, il n'y ait plus du tout de goût de bouchon sur leur production. Donc, on va pouvoir faire un
récit
peut-être un peu plus fort.
Et alors, avec l'argent tiré du recyclage, vous plantez des arbres.
Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, cette matière première qui est le liège reste une matière première noble, qu'on en fasse des bouchons, qu'on en fasse, comme vous le disiez, du revêtement de chaussée. Elle a donc un coût, et cette somme qui est récupérée à la vente des bouchons de liège auprès de l'intermédiaire, nous ne la conservons pas et nous l'adressons à la Fédération française du liège, ou plus exactement à l'Institut méditerranéen du liège, qui l'utilise pour racheter des chênes liège en notre nom et les planter dans les Pyrénées-Orientales.
C'est très très bien. Où ça, du côté de Céret?
À côté, oui, voilà, tout ouais, à fait. La forêt du Boulou, c'est le un Boulou. Joli nom qui se retient bien. Quand on est là-bas, on a une magnifique vue sur le Mont Canigou. Et aujourd'hui, ça représente 7 hectares de forêt, ce qui n'est pas négligeable. Et 3500 petits chênes liège qui deviendront un jour des bouchons.
Alors, au rayon bravo, j'ai vu aussi que les bouchons de liège que vous utilisez, au lieu de créer du CO2, en absorbent. Ça m'a plu aussi, ça.
Le fournisseur, alors je ne peux me prononcer qu'au nom d'Amorim, puisque ça n'est pas nous qui avons fait... l'analyse du cycle de vie, et notamment cette analyse carbone, a été faite par eux en toute authenticité, puisqu'ils se sont dotés de garanties, tout ce qu'il y a de plus sérieuses. Et ils ont pu chiffrer qu'on absorbait 382 ou 383, je ne sais plus, une petite unité près, vous ne m'en voudrez pas, de carbone qui sont donc absorbés par ces forêts.
Bon, c'est bravo en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure,
et
Hélène,
que vous collectez aussi les bouchons en plastique. Alors ça paraissait pantoise.
En fait, ça vient d'une histoire tout à fait anodine, mais pas tant que ça. Quand vous arrivez en tant que client dans un magasin, Nicolas, pour déposer vos bouchons, vous avez vos bouchons liège et parfois des bouchons qui ressemblent à s'y méprendre, à des bouchons liège.
Ah oui, c'est ça.
Et pourtant, ils ne
ça.
Sont pas du liège.
Oui,
ils sont. C'est là que je voudrais saluer quand même.
Vert pomme.
Bah, ils n'ont pas de couleur, ils ont celle du liège, justement. Ils sont tellement à s'y méprendre.
Ouais.
Mais ceux qui nous intéressent, parce qu'ils deviennent une pollution pour cette filière de recyclage, donc on a dû demander aux cavistes de s'amuser à en faire le tri.
Eh oui, tri, quoi.
Donc imaginez qu'à chaque fois que les clients ramènent un pochon qui n'est pas trop volumineux, sans doute, en magasin, le cumul de tous les pochons rapportés, les cavistes les trient.
Et c'est un nouveau job pour eux, trieurs de bouchons.
C'est un peu ça. Mais ils le font avec énormément de bienveillance et d'intérêt à cause de cette économie circulaire qui les passionne tout autant.
C'est vraiment très très bien, bravo.
Et
bravo.
Quand le bouchon synthétique est trié, il est à son tour restitué à un autre partenaire de façon à en faire toutes sortes de choses en base plastique un peu.
Et aller nourrir les poissons méditerranéens.
Non, c'est pas ça. Justement, il y a une espèce de projet recherche et développement sur lequel je peux me prononcer parce qu'il est encore à l'état de balbutiement, mais il semblerait qu'on pourra peut-être un jour en faire à nouveau du bouchon.
On pourra en refaire des bouchons encore.
Et la dernière chose que je tiens à signaler, c'est que les sommes collectées, cette fois, ne servent pas à planter du plastique, puisque
non.
Ça ne pousse pas, jusqu'à preuve du contraire, mais à nourrir une association magnifique qui s'appelle Un bouchon, une espérance, qui est basée dans l'Essonne et qui vient en aide aux personnes handicapées de façon à les équiper de fauteuils roulants et autres.
Merci beaucoup, Laurence. Merci également à vous, Hélène. Bravo à la Maison Nicolas. Une vidéo sur Radio retrouve Philippe Orbach, propriétaire du restaurant Le Bistrot du Sommelier à Paris, boulevard Haussmann, pour une balade en Corse.
Et oui, du côté de Figari, donc plutôt dans le sud de la Corse, pas loin de Bonifacio, une région célèbre à la fois pour ses falaises, pour son vent aussi. Il fait un vent terrible dans ce coin-là.
Au port de la Tramontane, non
de, je sais pas, la Tramontane, peut-être, qui souffle aussi là-bas. Sous partout, la Tramontane.
La Tramontane.
Tramontane, oui. C'est
le Chenin, voilà. Alors, voilà. Oui.
Et donc, en tout cas, il y a beaucoup de vent. C'est d'ailleurs l'aéroport de Figari, régulièrement, n'est pas complètement fermé, mais il y a souvent des retards d'avion, parce qu'effectivement, il s'est extrêmement vanté. Alors, c'est un terroir très granitique, alluvionnaire et granitique, rude, à cause du vent et quand même d'un climat relativement sec. C'est pourtant un endroit qui est réputé pour la viticulture depuis très longtemps, puisque depuis c'est quasiment 5 siècles avant Jésus-Christ, on a des traces de viticulture, ce qui en fait une viticulture extrêmement ancienne dans le bassin méditerranéen. C'est un vignoble qui est assez petit, ça fait 130 hectares. Donc à l'échelle de la Corse, c'est pas mal, mais c'est quand même pas extrêmement grand. Et c'est un vignoble qui a eu un acte de renaissance au début des années 90, notamment grâce à Yves Canarelli, dont le domaine éponyme est resté célèbre dans le temps et toujours. Et même si ça donnait quelques idées à des vocations de voisinage, ça reste quand même le vignoble d'un canton d'Ain de cette appellation, qui produit à la fois des blancs, des rouges et des rosés, donc assez classiques. Les blancs sont élaborés à partir de ce qu'on appelle la Malvasie à Corse, qui n'est autre que le Vermentino, appelé également le Roll sur le continent, qui donne des vins avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup de notes aériennes. C'est assez suave en même temps, mais en même temps, il y a une jolie acidité sur les Vermentino, qui sont des vins blancs qu'on peut boire assez rapidement, avec notamment tous les poissons, et Dieu sait si les mérous et autres crustacés, langoustes et autres qu'on trouve en Corse sont des alliances parfaites, mais qu'on peut également faire vieillir, et lorsqu'ils minéralisent avec le temps, fais attention que ce ne soit pas la minéralité, mais juste la minéralisation du vin.
Donc il n'y a pas de terroir, David ne s'énerve pas.
Si en plus on évoque le terroir, là, David il va partir en Corse à la nage. Mais en tout cas, c'est très intéressant avec le temps, dizaines d'années, c'est vraiment, vraiment bien, et on peut aller du coup sur des accords encore plus subtils. Côté raisin rouge, il y a bien sûr le Nieluccio, qui n'est autre que le Sangiovese de nos amis italiens, le Ciaccarello, qui veut dire le grain croquant, qui est vraiment un cépage endémique, mais on a également du Grenache, et on a également un autre cépage qui rentre dans le cadre de l'appellation Figari, qui est le Carcagiolo Nero, qui fait partie de ces cépages anciens en Corse. Il faut dire que la Corse, comme la Sardaigne et comme certaines îles en Grèce, ont une variété de cépages extrêmement intéressantes qu'on redécouvre aujourd'hui, qui sont remis en valeur et qui, heureusement, parce que non seulement c'est partie du patrimoine, mais ils sont extrêmement intéressants avec l'évolution du climat.
Ça change des cépages classiques qu'on voit au
fond. Exactement. Ça affirme cette personnalité. Et puis il y a des rosés. Alors le rosé, on peut imaginer quand on est en Corse, quand il fait beau, même si là on est en septembre et qu'effectivement il y a encore de très belles journées. Exactement, il y a encore de très jolies journées. Les soirées commencent à être un petit peu plus fraîches, mais tout est relatif.
Ça va encore.
Franchement,
en Corse.
Exactement. Oui. Le rosé est le bienvenu. Et les rosés, effectivement, notamment lorsqu'ils sont faits avec le Ciaccarello. J'aime beaucoup les rosés de Ciaccarello. On en trouve également à Ajaccio de très bons. Mais sur Figari, ils sont vraiment remarquables. Bien sûr, si vous avez la patience de faire un petit barbecue, vous pouvez vous faire plaisir tant sur des viandes que des volailles que sur des poissons. Si vous avez envie de salade rafraîchissante, c'est juste merveilleux. Une petite salade avec les tomates qui sont encore assez joliment mûres en ce moment, un peu de broccio, de l'huile d'olive.
Ça y est, on a faim. Bon, de notre côté, c'est
l'heure. Trois feuilles de basilic.
Ouais, basilic, etc. Je veux dire, franchement, on n'a pas besoin d'autre
chose. Le paradis proche, quoi.
Quelques beaux amis et le monde se refait rapidement. Ça va très bien aussi avec les produits méditerranéens. Si c'est pas le plus typique, mais ça n'est pas les plus mangés en France, c'est ce que
bon,
c'est.
Attention.
C'est le couscous. Hein.
Ah, mais le couscous, voilà très
rosé
bien.
De ce quoi-là. Alors, deux, trois domaines rapidement. Canarelli, Tanella ou Petra Bianca.
Merci beaucoup, Philippe Forbach. Merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin Nicolas à Paris pour le Ville Quiz.
Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour à la cave Nicolas à Paris, 31 Place de la Madeleine, pour cette émission toujours en public et délocalisée avec Hélène Pio et puis le Ville Quiz, Hélène.
Oui, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un très beau cadeau, un abonnement d'un an à la Revue du Vin de France. Voici la question de ce week-end. À quelle célèbre émission de cuisine notre invité d'hier, Juan Arbelez, a-t-il participé en 2012? Réponse A, Bon Appétit bien sûr. Réponse B, Top Chef. Ou réponse C, Le Cuisinier a un corps de braise. Pour répondre et gagner un abonnement d'un an à la Revue du Vin de France, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz, et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci Hélène. Invino Sud Radio retrouve maintenant David Cobold, le cofondateur de l'Académie des Vins et des Spiritueux, pour nous parler. Alors, non pas du président Trump, ça vous l'aimez pas, voilà.
Non, pas du tout.
Le monsieur qui veut taxer le vin français. Mais en revanche, vous avez une affection toute particulière pour le troisième président des États-Unis.
C'est exact, Thomas Jefferson. C'est un homme que j'aurais bien voulu rencontrer. Il y a quelques personnages comme ça, Aliénor d'Aquitaine, Thomas Jefferson.
Napoléon.
Pas du tout. Alors, Thomas Jefferson, il a vécu entre 1743 et 1826. Il fut le troisième président des États-Unis. C'était un des membres fondateurs de la création de ce nouveau pays, les États-Unis, de l'indépendance des États-Unis du joug de l'Angleterre. Et pendant quelques temps, 2 ans et demi, il fut un des 3 ambassadeurs envoyés à Paris par George Washington, premier président, juste avant la Révolution. Ce qui m'intéresse, beaucoup de choses m'intéressaient dans cet homme-là, parce qu'il s'intéressait à tout. Il s'intéressait à la politique, bien sûr. C'était un politicien extrêmement bienveillant et influent. C'était un homme qui s'intéressait à l'économie, à la mécanique et à l'agriculture. Et dans son domaine, dans la Virginie, à Monticello, il a planté énormément d'arbres. Il a essayé de planter de la vigne et sans le savoir, il a découvert l'effet ou le méfait de phylloxera parce qu'il a ramené des pieds de vigne de France qu'il a essayé de planter à deux reprises et chaque fois les plantes crevaient. Mais on ne savait pas encore que c'était le phylloxera qui était responsable parce qu'il s'agissait de Vitis vinifera qui n'était pas résistant. Alors, moi j'ai lu, ou plutôt relu récemment, le journal du voyage en Europe de Thomas Jefferson. Il en a fait deux. Il a fait un voyage de 3 mois et demi en 1787 et un autre d'un mois et demi, tout en calèche, enfin en calèche en fiacre. Hein.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et on partit à pied, mais sans aller dans les grands hôtels, mais en logeant chez les gens d'une manière très simple, d'une manière totalement anonyme. J'ai l'impression que pendant son séjour en France, il n'a fait que voyager, au fait. Et il adorait le vin, mais il était curieux de tout. Et dans ses descriptions, je vais vous en lire quelques-uns, parce que c'est extraordinairement intéressant et... Il était un observateur très fin de tous les détails. Il regardait les vêtements des gens, comment ils étaient habillés. Il se plaignait, il disait « les femmes ne devaient pas travailler tant, ce n'est pas normal ». Il disait que ces gens ne sont pas assez correctement nourris. Il y a un passage où il parle de ça. Donc on va se concentrer sur le vignoble. Là, son premier voyage, il a commencé par la Bourgogne, le Beaujolais, la vallée du Rhône. Il est allé en Italie, il est revenu par le Languedoc, il est remonté par Bordeaux, le Pays Nantais. Enfin, il a fini à Paris. Donc ça, tout ça en 3 mois et demi, chapeau. Hein,
parce qu'à l'époque, c'était pas, il n'y avait pas de TGV.
Parce que
quoi,
l'état des routes, voilà. Donc il décrit tout. Là, par exemple, en Bourgogne, voilà ce qu'il dit, en partie, hein, parce qu'il y a 4 pages sur la Bourgogne. Les vignobles qui ont conféré sa réputation à la Bourgogne se trouvent uniquement sur la côte. À l'époque, c'était le cas, la Côte d'Or. Et ne couvre qu'une zone de quelques 30 km de long sur 3 de large. Il commence à Chambertin et englobe Vougeot, Vaune, Nuy, Beaune, Pommard, Volnay et Meursault pour se terminer à Montrachet. À l'époque, Montrachet, on parlait du vignoble et pas du village Puligny-Montrachet parce que ce n'était pas encore à trait d'union attaché au vignoble. Les deux derniers sont blancs et les autres sont rouges. Le Chambertin, Vougeot et Beaune sont les plus robustes. Ils supportent le transport et la conservation. En conséquence, ils se vendent sur place 1200 livres la queue. Retenez simplement le chiffre et pas nécessairement la conversion parce que je suis incapable de vous le faire. Soit 48 sous la bouteille. Le Volnay est le meilleur des autres rouges. Son bouquet est égal à celui du Chambertin, mais étant plus léger, il ne se conservera pas. Et donc, ne se vendent que 300 livres la queue, c'est-à-dire un quart du prix.
Non, mais c'est incroyable.
C'est une précision.
Un président américain, il y a quelques siècles, qui parle de ça. C'est incroyable.
Oui. Et puis, il a transporté aux États-Unis des bouteilles de vin. Il avait acheté, je crois, 10 pièces de Château Yquem pour George Washington. Il en a gardé 3. Le taux de commission est honnête, je trouve.
Business first.
Business first. Alors, beaucoup d'autres choses. Il décrit très précisément le vignoble de Côte-Rôtie et de Condrieu. Hein. Ensuite, quand il fait son tour par le sud, il remonte par les quais de la Garonne pour entrer dans Bordeaux. Il remarque des piles de planches d'ormeau sur les quais pour faire les barriques. Donc on apprend qu'à l'époque, on n'utilisait pas le chêne, mais l'ormeau pour faire les barriques. Il y a énormément d'observations. Dans son second voyage, il est parti par Amsterdam, il est redescendu en Allemagne, il est revenu par la Champagne. Il décrit très précisément le terroir de Champagne, il décrit les villages, les crus de Champagne, et dit « le Champagne fait 2 sortes de vins, le mousseux et le tranquille. Les Français n'aiment que le tranquille. Seuls les étrangers boivent du mousseux. »
C'est drôle.
On sait que le Champagne était inventé en Angleterre avec du vin de vrac pour tout un tas de raisons techniques et historiques. Et ça a continué. Là, on est 1788, donc ou 80 ans après la libération de la production de mousseux, mais tout le mousseux en Champagne était fait que pour le marché export.
Merci beaucoup, David Cobold. Beau témoignage. Un de plus, David Indino, sur Radio, retrouve Azélina Jaboulet-Vercher, historienne et spécialiste du vin. On parle de biodynamie aujourd'hui. Hein. Alors, vous restez calme, David. Hein. Vous étiez très bien jusqu'à maintenant. On parle de biodynamie avec Azélina.
Oui, parce que je voulais parler de biodynamie parce qu'en fait, c'est un sujet qui est assez à la mode, en fait, mais qui a toujours existé. Parce que depuis que l'homme cultive la vigne, il regarde le ciel, il regarde la terre, et évidemment, et la lune et les étoiles. Et en fait, il se tient toujours à l'écoute des lois de la nature. Et aujourd'hui, on parle beaucoup dans les vignobles ou dans la littérature autour de la biodynamie d'un homme qui aurait tout inventé, le père putatif de la biodynamie.
Alors, c'est qui ce monsieur ?
Eh ben, dites-le-moi.
Est-ce qu'il est français ?
Non.
Ah ! Est-ce qu'il est barbu comme Philippe Rouac ?
Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Pas de problème, David. On ne va pas se fâcher aujourd'hui, je pense. Parce que, je tiens à préciser, avant de commencer, que en fait, ce que je vais vous raconter n'est pas du tout un rejet des pratiques biodynamiques. Bien au contraire, c'est au contraire un encouragement à se réclamer de vrais auteurs. de vrais auteurs qui ont peut-être, eux, peut-être pas inventé des choses, mais constitué un savoir sérieux. Alors, évidemment, quand on dit « un monsieur a tout inventé au XXe siècle », moi, étant historienne médiéviste de surcroît, je me méfie un peu. Et d'ailleurs, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi les gens veulent absolument inventer. Comme disait Bernard de Chartres, nous ne sommes que des nains juchés sur des épaules de géants. Nous sommes plus grands grâce à ceux qui nous ont précédés. Alors, j'ai quand même abordé la littérature steinerienne avec beaucoup d'enthousiasme et j'ai été déçu. Très vite et durablement. Je passe sur le style ampoulé, inutilement compliqué, qui brouille la lecture de ses textes, même les textes ésotériques. Mais je dois dire que son œuvre littéraire est riche. C'était un homme éminemment intelligent, évidemment, grand philosophe, fasciné par l'essence de la nature dans une acception assez large, donc qui impliquait la physique, la chimie, la biologie, l'anatomie, la botanique, donc une manière ancienne, en fait antique, d'envisager le savoir. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et au crépuscule d'une vie intellectuelle très riche, en 1924, l'année d'ailleurs où il a fondé la Société Anthroposophique Universelle, il répondit à la requête d'un groupe d'agriculteurs inquiets des méfaits d'une agrochimie décente. Donc ça, c'était aussi une bonne chose. Et ça s'est appelé le cours aux agriculteurs. Donc en une dizaine de jours, il a expliqué pas mal de fondements, et dont le premier qui est celui de partir de la ferme, considéré comme un organisme, une entité close, dont le modèle réduit serait l'être humain. L'être humain doté d'un corps à quatre dimensions, physique, éthérique, astrale. Bon, là, les sources sont assez claires. Aristote, traité de l'âme, la physique, la métaphysique, le météorologique. Ptolémée aussi, avec le Tétrabiblos. Albert le Grand, avec son traité sur les végétaux. Donc, bon, pas tellement d'originalité de Steiner ici, sauf pour l'ajout de l'ego.
L'ego.
Mais alors, en 1924, c'est dommage parce que Dr Freud avait un petit peu parlé de l'ego.
Oui, c'est ça. Quoi, ouais.
Donc, c'est dans la combinaison, en fait, dans la compilation que Steiner est bon, mais pas dans l'invention. Alors, pendant ces 10 jours de cours aux agriculteurs, il explique les principes holistiques d'une agriculture intéressante, la relation entre le particulier et l'universel, la connexion entre l'homme et la terre d'une part et le cosmos d'autre part. Donc ça, ce sont aussi les fondements de la philosophie naturelle depuis l'Antiquité. Donc
donc il n'a rien inventé, ce garçon. Bah,
pas grand-chose, à part l'occultisme steinerien.
L'occultisme.
Qui est un petit peu le problème, qui est un petit peu le danger, le caractère...
sectaire
et même le principe du gourou qui est toujours dangereux,
oui, c'est ça, quoi,
obscurantiste.
Oui.
Parce qu'en fait, il expliquait que
la pensée unique
les
aussi,
mystères,
hein.
Les mystères. Mais alors en plus, il reprend des choses. Là, il reprend un peu Platon avec le nous, ce principe intellectuel supérieur. Sauf que lui dit, mais en fait, vous avez besoin de moi parce que vous avez besoin d'une intelligence supérieure pour vous initier à ces vrais mystères.
Il se prenait comme très séparé. Il disait, par exemple, il y a quand même dans ses écrits des choses incroyables, il disait qu'une femme blanche qui lit un roman nègre risque de produire un bébé mulâtre. Il faut le faire, quand même.
Ouais,
il était complètement dingue.
On est quand même bien à droite, là, non?
Légèrement, oui.
Mais en tout cas, moi, ce que j'invite à faire, c'est de s'intéresser plus à Aristote, à Ptolémée. Et si vous voulez vraiment un Steiner, lisez Georges.
Ouais. Oh,
très joli. Ah,
bravo, c'est très bien.
C'est bien.
Bon, on
réagit un petit peu là. C'est un très joli papier, bravo.
Ouais,
papier,
ouais.
Ensuite, vous l'aimez pas vous, hein?
Non, parce qu'effectivement, comme Azaline a dit très justement, il a récupéré plein de choses. Il a un fest magma soupe.
Mais vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, il a expliqué que la science antique était perdue.
Oui.
Mais on l'a retrouvé.
Mais il y a une chose quand même très intéressante. Dans le milieu vin, qui se réclame beaucoup de lui, il faut quand même dire qu'il était anti-alcool. À la Fondation Steiner Biodynamique en Suisse, il n'y a pas une goutte d'alcool. C'est interdit. Il est anti-alcool.
Alors que justement, Jefferson, lui, quand même, une de ses grandes ambitions, c'était de sauver l'Amérique de l'ivresse chronique par le vin.
La biodynamie, vous en pensez quoi?
L'agriculture, il ne l'a jamais pratiquée.
La biodynamie, très bien. Steiner, non. Je crois qu'on est tous d'accord autour de la table.
Mais c'est surtout, ce qui est intéressant, c'est ce savoir qui s'est constitué progressivement et qui est donc très, très riche. Donc, les gens, les adeptes de la biodynamie, vraiment, moi, je les encourage à lire des textes qui sont... Aristote est beaucoup plus facile à lire que Steiner.
Oui, c'est ça, quoi. Tant qu'il va prendre des choses...
C'est totalement illisible.
Mais c'est exprès, justement, parce que comme c'est occulte.
Ouais, c'est ça. Bien que on n'est pas
seuls,
censé
les
comprendre.
Gens très très intelligents peuvent comprendre.
Ouais, c'est comme certains sommeliers, parfois ils parlent de choses, on ne comprend rien. Mais heureusement qu'il y a Philippe Orbach qui est parfait. Merci en tout cas, merci beau papier, merci à vous quatre, hein, merci David, Azelina, également donc Hélène et Philippe Orbach. Merci également à Charlotte qui a préparé cette émission, qui a très bien travaillé une fois de plus, et Sébastien aussi à la technique, qui a été juste parfait. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.fm ou notre page Facebook Invino. Alors on se retrouve samedi prochain à 12h30 précise, hein, n'oubliez pas, pour une nouvelle émission. Nous serons délocalisés chez Nicolas à Paris, hein, le caviste fondé en 1822. D'ici là, c'est le moment, excellent déjeuner, restez à l'écoute de Sud Radio et surtout n'oubliez jamais, respectez et observez la plus grande des modérations.